Voilà, c'est gentil. Tu enregistres bien et il faudra transmettre au l'informaticien de la paroisse là, qui s'occupe du site de la paroisse pour qu'il le mette. Voilà. Alors, en introduction, je dis qu'il y a plusieurs petits livrets qui sont été imprimés pour les catéchèses antérieures sur la prière selon les disciples du Christ et sur le pardon. Le sacrement du pardon qu'on avait détaillé dans une précédente catéchèse. Et la situation dans laquelle nous sommes ici des chrétiens, c'est-à-dire que nous savons que Dieu existe, nous savons que le Christ est sauveur de l'humanité, et nous avons au moins une église à notre disposition, ici même, à la paroisse Saint-Jean de San Francisco, à Asnières. Et donc, je ne parle pas à des égarés de l'humanité qui cherchent Dieu pour savoir s'il existe ou n'existe pas, qui cherchent si eux-mêmes existent ou n'existent pas, si la vie a un sens ou n'en a pas. Mais ici, nous parlons à des personnes qui ont une connaissance de l'Église et qui, dans le cours de l'existence, rencontrent de véritables problèmes. Autrement dit, le fait d'être chrétien, nous avons les principes du salut en Christ, et nous souffrons de bien des maux dans les aspects actuels de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et donc, le sujet de ce jour, c'est de voir comment les sacrements qui sont en usage dans l'Église sont des secours pour notre corps, notre âme et notre esprit. À une nuance près, c'est que on ne fait pas de la médecine sauvage et que il faut aller voir les médecins si on a des choses graves pour notre corps. Par contre, les sacrements sont d'abord des sacrements pour l'âme et l'esprit, et quand on guérit l'âme ou l'esprit, parce que les maladies sont souvent psychosomatiques, on guérit indirectement le corps. Mais ça, c'est pas systématique. On n'est pas d'abord des substituts de médecins. C'est pas vrai. On fait pas de concurrence à la médecine officielle. Mais par contre, l'âme et l'esprit, c'est notre sujet. Et donc, le premier point des mots qui nous pèsent, c'est l'attention à soi-même, une prise de conscience. C'est être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi et prendre conscience de qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Où est-ce qu'il y a des points de douleur? Et oser les regarder en face au lieu de les fuir. Le deuxième point, il nous faut donner du temps à notre participation à l'Église. Alors, ça veut dire venir à l'Église pour demander qu'un prêtre ou un diacre intervienne. Ou quand on ne peut pas aller à l'Église, c'est demander qu'un prêtre ou un diacre vienne à la maison. Il faut ménager du temps pour se donner du temps. Le troisième point, ça consiste à demander le sacrement adapté à la situation. Et nous allons voir plusieurs sacrements par ici. Je voudrais insister dans l'introduction sur la différence entre l'âme et l'esprit. Dans notre anthropologie chrétienne, nous posons la distinction entre l'âme et l'esprit, qui ont une qualité commune d'être invisibles au sens charnel. Les puissances de l'âme ont en commun d'avoir des aspects qualitatifs et quantitatifs. Distinguons une âme vitale, énergétique, en rapport direct avec le corps, notre affectivité, notre mémoire, le conscient et l'inconscient, l'intellect comme fonction mentale. Ceci, ce sont les fonctions de l'âme. Toutes ces fonctions ont en commun d'être à la fois qualitatives et quantitatives. Par contre, l'esprit de notre humanité est qualitatif et non quantitatif. Il n'y a pas plus ou moins d'esprit, il y a l'esprit tout court. Et d'une certaine façon, l'esprit est simple. Il a deux fonctions évidentes qui sont, d'une part, la permanence de la personne unique, et d'autre part, la capacité de se tourner vers. Notre esprit peut se tourner vers Dieu, vers notre épouse, vers notre enfant, vers notre mari, que sais-je, vers cet animal ou cette plante, se tourner vers. Il est l'aiguilleur de ce qu'on appelle l'attention. L'attention est une qualité de l'âme, mais l'attention est orientée par l'esprit. Pour reprendre cela, on redit les premières paroles du Magnificat, l'hymne de Marie qu'on a chanté tout à l'heure. Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur. C'est dans Saint Luc, chapitre 1, verset 46. La Vierge Marie distingue bien mon âme et mon esprit. Mon âme, quand elle dit « Mon âme magnifie le Seigneur », c'est un chant, une louange qui s'élève de son âme. Il y a une puissance de vie dans son âme qui entre dans la louange. L'esprit de la Vierge Marie est tourné vers Dieu. Elle dit « Mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur ». C'est-à-dire l'esprit est tellement tourné vers Dieu qu'il est en Dieu et il reçoit la communication de la joie. Elle fait bien la distinction entre son âme et son esprit à la conscience de cette nuance qu'on retrouve dans les langages hébraïques et grecs. Et en français, c'est âme et esprit. Après avoir précisé de quoi on parle dans la structure chrétienne, tout le monde n'est pas d'accord sur l'anthropologie, mais il faut un peu préciser les choses. Parlons des difficultés de vie. Est-il besoin d'illustrer le propos ? Les troubles de l'âme et l'esprit sont très nombreux. Nous avons une série de mots pour nommer les troubles de l'âme et de l'esprit. Je vais en nommer quelques-uns que vous reconnaîtrez en vous. Ignorance ou ténèbres. Non pas les ténèbres de la lumière physique, mais ténèbres subtiles. On se demande où on va, une angoisse très répandue. Quel est le chemin de vie ? Le chemin de vie doit être éclairé intérieurement, et quand il ne l'est pas, on est dans l'ignorance ou les ténèbres. Il y a aussi la conscience de séparation, par manque de rapport entre les êtres humains. On souffre d'être séparé de Dieu ou du pays où l'on voudrait être, conscience d'être séparé. Dans les difficultés, il y a les pensées négatives qui sont très répandues, le pessimisme, les propos négatifs et destructeurs sur soi, sur les autres et sur Dieu. Ça, c'est des écueils qu'on peut rencontrer. Aussi la jalousie, l'attachement exclusif, la crainte de l'infidélité de tel ou tel, la crainte d'être trahi, ou alors la jalousie sous la forme d'envie des avantages d'autrui. Les autres ont à nos yeux certains avantages, le moi peut devenir envieux. Il y a aussi les désirs de pouvoir, quand il y a dans le groupe quelqu'un qui veut devenir calife à la place du calife. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi les désirs de jouissance sensuelle, par exemple le désir irascible de manger, le désir obsessionnel des rapports sexuels, le désir de posséder. Comme si le domaine reçu ne suffisait pas, souvent l'homme veut plus la maison qui est de l'autre côté de la rue, il veut des grands biens, il part dans le nouveau monde avec le désir de faire fortune. Tous ces désirs nous habitent et où ils ne nous habitent pas, nous les rencontrons. La question qui se pose, c'est la guérison de tous ces maux. On peut aussi avoir des difficultés plus spécifiquement spirituelles. C'est le problème de la vérité et du mensonge. Pilate posait la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? C'est un vrai problème spirituel. Il y a des personnes qui sont dans cette forme de ténèbres. Alors je voudrais que nous examinions successivement les sacrements, surtout qu'on est au début du carême, et que l'usage des sacrements, c'est le moment de faire le plein des sacrements. Tant qu'il y a un prêtre et tant qu'on célèbre la liturgie, il faut profiter de ce que l'Église met à notre disposition. Et je commencerai par le baptême. Le baptême, vous connaissez le rite, vous avez déjà vu s'accomplir dans le baptistère. Je crois qu'il se prépare un baptême pour Pâques. Ou peut-être un peu après, mais disons ce printemps, il se prépare un baptême. Ce baptême est dans une eau qui certes lave le corps, mais surtout l'âme et l'esprit. Nous faisons par le baptême l'expérience de la divine Trinité. L'expérience d'un Dieu invisible, inaccessible, éternel, immuable, qui pourrait nous paraître lointain, mais qui finalement est proche, nous en faisons l'expérience. Même l'enfant qui a 2 ou 3 semaines et que nous baptisons, n'a pas les mots pour nommer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'expérience qu'il vit dans le baptême s'inscrit dans son âme et son esprit en tant qu'expérience de rencontre. L'enseignement qui suit le baptême contient les mots pour nommer l'expérience vécue qui est gravée dans son âme. Et cette expérience concrète de la divine Trinité inscrit une mémoire en nous qui guérit plusieurs choses. Qui guérit d'abord l'ignorance. L'ignorance qui consiste à oublier que Dieu existe. Avec le baptême, on ignore plus Dieu puisqu'on l'a rencontré. Et c'est déjà un argument du salut. On sort du doute sur l'identité ou la réalité de Dieu créateur de l'univers. Nous apprenons qu'il est un, même s'il est en 3 personnes, et ceci lève la question de l'ignorance. Ensuite, ce baptême nous donne une clé pour franchir les ténèbres. Certes, Dieu est incompréhensible, inaccessible dans un mouvement de Dieu vers l'homme. Mais il est communicable dans un mouvement de Dieu vers l'homme. J'ai dit une bêtise là. Dieu est incompréhensible et inaccessible dans un mouvement de l'homme vers Dieu. Si vous me suivez bien. Et il est communicable dans un mouvement de Dieu vers l'homme. Si nous comprenons pas tout, nous pouvons entrer en relation par le souvenir de la relation dans le baptême. Nous pouvons restaurer cette relation par la prière à Dieu au nom duquel nous avons été baptisés. Par le baptême, nous pouvons vaincre la peur du néant. Les contemporains appellent cela l'angoisse existentielle. C'est une vraie question contemporaine. On meurt et après, est-ce le néant ? Où y a-t-il quelque chose ? La question est importante et vécue comme une peur chez un certain nombre de personnes. En faisant l'expérience de la divine Trinité, de la vie dans la dimension invisible au-delà du corporel, nous avons contact avec la dimension non corporelle de l'existence de quelqu'un d'autre que nous. Nous, baptisés, avons conscience que nous avons tous une dimension corporelle et une dimension incorporelle. Il n'y a plus de difficulté là-dessus. Ensuite, la question de vérité-mensonge. Qu'est-ce que la vérité? La réponse est dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. La vérité, c'est ce qui est conforme à l'œuvre de Dieu. Ensuite, après la question de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, il y a la question de la peur de la mort, ensuite, c'est-à-dire le sentiment de peur. La mort existe, c'est une évidence que la plupart de nos contemporains ont peur de la mort. Ils ont peur de regarder en face ce phénomène de vie, alors que les chrétiens savent que c'est un passage vers une autre dimension d'existence. Et si la plupart de nos contemporains n'arrivent pas à regarder en face qu'ils vont mourir un jour, s'ils se comportent comme s'ils étaient immortels, c'est une conséquence d'une peur intérieure contre la mort. Par le baptême, nous connaissons la divine Trinité qui, elle au moins pour le Père et l'Esprit Saint, est sans corps, puisque le Christ a un corps ressuscité, mais les autres personnes sont sans corps. Ils ont une plénitude et n'ont pas de corps. Il nous appelle à une participation de vie avec la divine Trinité. Il y a besoin de mettre une paix dans notre âme et d'apprendre, dans le contact avec le ressuscité qu'est le Christ, la victoire sur la mort qui commence par la victoire sur la peur de la mort. La deuxième victoire sur la mort est la résurrection qui consiste à reprendre un corps après un temps. Une date que nous ne connaissons pas, c'est la résurrection universelle. Elle est prophétisée, mais nous savons qu'elle aura lieu un jour. Jour dont nous ne connaissons pas la date. Ensuite, le sentiment de séparation. Excusez-moi. Si nous nous sentons séparés, en fait, Dieu est partout présent et il remplit tout. C'est les principes. Mais nous devons arriver à guérir du sentiment de séparation parce que Dieu me pénètre, parce que Dieu est là. Le fait que nous soyons vivants, le fait que le monde existe, que le soleil se lève, que les plantes germent, que je respire, que mon cœur bat, l'existence même du monde et de la vie prouve que Dieu est là où je suis. En plus, j'ai le souvenir de l'expérience concrète et précise de Dieu dans mon baptême. Et ceci nous permet de dépasser le sentiment de séparation que nous pouvons porter en nous-mêmes. J'en viens à la chrismation, qui est un autre sacrement. On appelle aussi confirmation. Un mot est d'origine grecque, l'autre d'origine latine. Il s'agit du sacrement de l'Esprit Saint donné avec le Saint-Crème. Vous le connaissez, vous l'avez vécu, vous l'avez vu pratiquer. L'Esprit Saint est communiqué par la chrismation. C'est l'expérience de celui qui est la source des dons. Alors, ça éclaire aussi une problématique de pourquoi n'ai-je pas tous les dons? Et pourquoi mon frère ou ma sœur a tel et ou tel don que je n'ai pas et peut-être le don que j'ai aussi? La répartition des dons qui peut paraître aléatoire au regard superficiel, mais qui n'est pas si aléatoire que ça quand on regarde la question « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ?» Et pourquoi m'a-t-il donné ces dons et pas d'autres ? La répartition des dons a pour clé la puissance de l'Esprit-Saint. Et je découvre que mes dons sont complémentaires des dons de mon frère ou de ma sœur. Et à ce moment-là, on guérit la jalousie. Je peux guérir la jalousie. Je n'ai plus de motif d'être jaloux du don de ma sœur ou de mon frère en Christ, puisque ce don vient compléter le mien, et qu'ensemble, nous approchons de la plénitude des dons. Nous sommes donc distincts mais unis dans le même Esprit Saint. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les dons puisqu'il est important, puisque ce qui est important, c'est que nous soyons complémentaires. L'important, c'est que les dons soient dans la communauté. Et la jalousie n'a plus de sens, le désir égoïste perd son sens. En tant que membre de la communauté, je bénéficie des dons qui y sont présents. Que ce soit des dons matériels, psychiques ou spirituels, je n'ai pas besoin de les avoir tous, mais je participe à tous, à travers la communauté. Et j'insiste sur le sentiment d'ouverture, d'appartenance à une communauté. C'est très important parce que ça nous ouvre ces portes de la complémentarité des dons. Ensuite, on dit que l'Esprit Saint est consolateur. C'est la consolation des peines. On peut se sentir seul, abandonné, on peut se sentir porter une peine insondable, inconsolable. Et que faisons-nous ? Nous appelons l'Esprit Saint en nous rappelant, remémorant la relation avec l'Esprit Saint lors de la chrismation. Vient enfin une mémoire, l'Esprit Saint a une façon d'éclairer le lieu où je mets les pieds. Parfois, j'ai du mal à comprendre le motif de ce que je fais. On prend des habitudes, ou alors on est réactif dans le mouvement instinctif. Il peut y avoir un geste spontané qui n'est pas passé par la conscience. Mais l'Esprit Saint nous fait retrouver la mémoire. C'est-à-dire qu'on prend conscience de tel événement qu'on a vécu, et ça se met en relation avec d'autres événements qu'on a déjà vécu. Et nous avons une chaîne de mémoire d'événements spirituels dans notre histoire. Et nous pouvons cheminer le long de cette chaîne de mémoire intérieure. Et l'Esprit Saint éclaire ces relations à l'intérieur de nous-mêmes. On dit que l'Esprit Saint est vivificateur. Il est plus que vivant, il est porteur de vie. Vous savez, la vie, c'est quelqu'un. La parole du Christ, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Pour nous, chrétiens, la vie, c'est Dieu. Le fait que nous soyons vivants, c'est une participation à une énergie du Christ. J'en viens à la communion au corps et au sang du Christ, qu'on appelle aussi Eucharistie, mot grec. La structure du Verbe. La participation au corps et au sang du Christ nous donne l'énergie de Dieu, mais aussi spécialement la structure du Verbe. On parlait présentement de la puissance de l'Esprit. Il s'agit ici de l'exactitude du Verbe. Il ne suffit pas d'avoir de l'énergie, il faut que cette énergie soit canalisée, soit structurée. Or, le verbe permet de nommer les choses comme une structure et une hiérarchie. En communiant au verbe divin, nous avons la capacité de mettre une hiérarchie dans les valeurs et les désirs. La question importante, c'est la hiérarchie des valeurs. Une des maladies de l'âme, c'est la dispersion, la confusion. Par exemple, j'ai du mal à mettre de l'ordre dans mon tas d'affaires en cours. Il y a des moments où j'ai besoin de m'arrêter devant ma pile de papier et dire « Seigneur, Seigneur, fais-moi prendre conscience de ce qui est le plus important. » Autrement dit, je demande la hiérarchie des valeurs et l'inspiration juste dans les priorités. J'ai besoin de la structure du verbe pour mettre de l'ordre dans les désirs et les choses à faire. Et aussi, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans les desseins de Dieu dans ma vie. Les plans de Dieu qui se révèlent avec les événements de l'existence. Et plutôt que de pédaler dans la confusion de notre verbe humain, plus ou moins bien structuré, plus ou moins dissocié, nous pouvons compléter nos insuffisances en appelant la structure du verbe. Comment ? En allant communier. Et quand nous allons communier, nous sommes pénétrés par l'énergie du Christ qui vient habiter dans notre cœur. Et il nous apporte l'exactitude du verbe. Une autre façon de faire, on ne peut pas forcément communier tous les jours, c'est de nous rappeler le souvenir de la communion. Et on dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». C'est la prière principale des hésychastes. Certains recommandent d'en venir à la prière perpétuelle, s'il est possible. Cette prière est l'actualisation à tout instant de l'acte sacramentel de communier au Christ. Et tant que la paroisse fonctionne, qu'il y a au moins un prêtre pour accomplir le rite de la divine liturgie, la communion au corps et au sang du Christ est disponible pour nous, pour nous nourrir intérieurement. Alors, les conséquences de cette communion, un peu dans le désordre, mais je vais donner plusieurs éléments. Nous pouvons avoir le penser positif. Nous pouvons avoir comme difficulté de penser mal de soi, des autres ou de Dieu. Autrement dit, de cultiver un pessimisme ou une misanthropie. En nous greffant au Christ, nous pouvons lutter contre le pessimisme ambiant, voire contre le pessimisme inscrit à l'intérieur de notre âme, parce que c'est notre première responsabilité. Notre penchant au pessimisme ou notre façon de formuler notre contrariété, notre douleur, d'une façon négative. Nous avons les moyens avec le Christ de mettre en œuvre ce commandement du Christ, « Bénissez, ne maudissez pas ». Et donc, ça c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Bénissez, ne maudissez pas ». Bénir en français veut dire du bien. Maudire, c'est dire du mal. Le commandement du Christ « Bénissez, ne maudissez pas » ne veut pas dire de se taire, mais de formuler les choses de façon positive. Donc on ne dit pas « Tu es méchant », mais on dit « J'ai mal » et la solution pourrait être que, on parle du cas spécifique dont on doit parler. On ne va pas nier la douleur, mais on propose la sortie positive pour sortir de la douleur ou du mal ambiant, sans nier la réalité, mais en mettant les choses d'une façon positive. Nous ne sommes pas menteurs ni hypocrites, il s'agit de présenter les choses de façon positive. La guérison, C'est comme cela, je propose ce chemin de rédemption. Autre dimension de la communion, c'est l'esprit de service. L'esprit de service est un des fruits de la charité. Lorsqu'on communie au corps et au sang du Christ, il vient quelque chose en nous, une nécessité de déborder d'une grâce qui nous remplit. La grâce nous remplit et nous sommes incités à faire des choses. Ça s'appelle la charité dans le langage chrétien. L'un des aspects concrets de cette charité, c'est l'esprit de service. Nous sommes poussés à l'intérieur de nous pour rendre des services aux autres autour de nous, dans la communauté chrétienne d'abord, mais aussi dans le rayonnement de notre relation quotidienne avec les autres personnes, pas forcément dans la communauté chrétienne. C'est quelque chose qui nous pousse en avant pour porter les fardeaux de l'autre, accomplir cette parole de saint Paul. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est dans saint Paul, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Nous sommes poussés à accomplir, et cela guérit le désir de pouvoir. Au lieu de prendre le dessus, nous nous mettons au service, et nous prenons conscience de notre puissance. Et je vous invite à regarder la nuance qu'il y a entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est le contrôle que nous établissons sur quelque chose ou quelqu'un en dehors de nous. Par contre, nous pouvons avoir une influence sur notre entourage parce que nous nous mettons au service d'une nécessité que nous ressentons et que l'énergie de la communion nous pousse à combler par débordement d'amour. Donc, l'Esprit Saint transmis par l'énergie du Christ dans la communion fait que nous avons cette énergie qu'on appelle la charité qui nous pousse au service, c'est-à-dire mettre notre puissance dans le service, donner et distribuer. La puissance que nous recevons de Dieu par ce sacrement peut nous guérir du désir du pouvoir. Alors, cette communion est à disposition dans le calendrier de la paroisse qui vous est diffusé. Et il nous appartient de prendre le temps de participer et de nous nourrir de l'énergie du Christ. J'en viens à la pénitence. Je vais être un peu bref sur la pénitence parce que j'ai fait une catéchèse là-dessus. La pénitence ou l'absolution des péchés, c'est le même sacrement. Il se fait en trois temps. Une prise de conscience de ce que nous vivons comme blessure de l'âme. Ensuite, la formulation de ce que nous vivons et la réception du sacrement du pardon. Le pardon qui est donné dans l'absolution. Il y a aussi trois temps et trois dimensions. Se pardonner à soi-même, recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec les frères. C'est tout un travail à faire sur nos blessures d'âme, ce qu'on appelle nos péchés aussi. Mais je préfère le nom de blessure d'âme, qui est plus positif. Je ne sais pas pourquoi le mot péché a une connotation négative. Ça ne devrait pas. C'est la constatation objective qu'on est passé à côté de la cible. Mais oui, et ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas forcément négatif, Il faut guérir de ces manquements qui se sont inscrits dans notre histoire pour nous délier de cela et passer à autre chose de positif. Et donc, Dieu est généreux et on dit qu'il est miséricordieux. Il est disposé à nous guérir des blessures de l'âme, très généreusement. Mais il veut que nous demandions ce pardon, que nous fassions la démarche volontaire de dire « J'ai vécu ce manquement, Seigneur, pardonne. » Et il faut comprendre cela. Dieu, dans sa miséricorde, respecte notre liberté. Nous pouvons garder tous nos péchés et arriver en enfer en passage de la mort avec tout le fardeau. C'est possible. C'est un choix. Mais on peut aussi aller trouver le prêtre et lui dire « Père, j'ai vécu cela, j'ai péché. Demande à Dieu pour moi le pardon de mon péché. » Et je peux vous garantir que les prêtres, on a entendu tellement d'histoires comme ça, qu'ils ne le prennent pas pour eux-mêmes, mais ils savent qu'ils sont le canal de transmission du pardon qui vient de Dieu et qui vient généreusement aider les fidèles chrétiens qui veulent être délivrés des blessures de leur âme. Je vous parle d'expérience. Quand on a énoncé une série de péchés ou de manquements, comme vous voudrez, on se sent nettoyé, on se sent joyeux de l'abondance de la grâce divine qui nous pardonne. Et alors, qu'est-ce qui se produit après ? D'autres péchés qu'on n'avait pas regardés en face se mettent à devenir évidents. Et ça monte vers nous, des profondeurs de l'âme. La conscience s'éclaire. Et il ne faut pas dire que c'est une catastrophe. Non, c'est le fait que nous nous voyons tels que nous sommes est une grâce divine. Et c'est l'occasion de retourner voir le prêtre en lui disant « J'ai déjà reçu l'absolution, mais depuis j'ai pris conscience que j'avais tel et tel péché, tel et tel manquement en moi et qu'il y a nécessité d'aller demander... J'ai la nécessité d'aller demander à Dieu pardon pour tout cela. » Et progressivement, la lumière s'installe dans les profondeurs de notre âme. Parce que ce sont des prises de conscience. Au lieu que ce soit refoulé dans l'inconscient, ça devient conscient. Et ce grand nettoyage, profitez donc du carême pour aller solliciter, un peu embêter notre prêtre, mais il ne sera pas embêté du tout, en demandant le pardon de Dieu, le prêtre est là pour le donner, et il le fait généreusement. Je vous parle d'expérience. Alors, délier. Alors, autre aspect de cette pénitence, c'est le rétablissement de l'esprit dans la vérité. Vous savez que celui qui dit qu'il aime et qu'il n'aime pas son frère, qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, est un menteur. C'est-à-dire que nous pouvons confesser la foi orthodoxe, les conciles, les canons de l'Église, mais que la pratique de la vie quotidienne ne doit pas se conformer aux principes, du moins dans certains aspects, ne doit pas se limiter aux principes. Lorsque la pratique quotidienne s'avère contraire aux principes, nous avons une sorte de schizophrénie intérieure entre les principes et l'action, entre la tête et les pieds. Il faut retrouver l'endroit pour me remettre des choses d'aplomb. S'il y a chez nous cette incohérence, nous pouvons rétablir la vérité en nous ouvrant à l'amour. Ça suppose une transformation intérieure, l'abandon d'une pensée fausse ou incohérente. Allez, j'ai fait une catéchèse sur le sujet, donc j'abrège un petit peu. Le sacrement des malades. Le sacrement des malades se donne avec l'huile d'onction. Les motifs pour lesquels on l'administre sont toutes les maladies de l'âme et du corps. Et vous savez que ce sacrement est donné sur tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la parole, les pieds pour les actions, la poitrine pour les mouvements du cœur. Et le but est le rétablissement de la santé pour que la vie puisse se vivre normalement. Accessoirement, le sacrement des malades peut aider à découvrir les causes de la maladie. Très souvent, on a, quand on est malade, des propositions de soigner l'apparence de la maladie. Mais ce que nous cherchons dans le chemin chrétien, c'est la cause de la maladie. Et qui revient à une prise de conscience de ce que nous vivons. En ce sens, le sacrement des malades devrait précéder l'absolution des péchés. Mais entre les deux, il y a la prise de conscience. Et donc, il y a un effet de miroir quand on est confronté à la cause de la maladie pour laquelle on a demandé le sacrement des malades. Ça donne aussi une chose dont je dois parler ici, c'est le sens de la souffrance. La souffrance, c'est pas pour nous embêter. C'est pour nous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, masquer la souffrance avec des médicaments qui ne font que masquer la souffrance, c'est un peu casser le thermomètre pour pas voir qu'il y a de la température. Je vous invite au lieu d'essayer de masquer la souffrance, de regarder la souffrance comme une alerte que quelque chose ne va pas, et de se mettre en quête. Alors il y a différentes façons. Moi j'aime bien poser la question le soir et puis en rêver la nuit et puis me réveiller avec des images, parfois énigmatiques, parfois en clair. De qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et donc, nous avons tous des souffrances émotionnelles ou physiques à gérer dans notre vie. Tous, nous en avons. Je n'ai pas besoin de faire une enquête, je le sais. Et le sacrement des malades est là pour nous aider à prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas bien, la cause de la maladie. Prêtre ou diacre, on prend l'huile des malades, on peut se rendre chez les malades si on a du mal à se déplacer. Le malade peut venir à l'église un peu avant le début de la divine liturgie, pas pendant, mais un peu avant. Éventuellement après, mais moi je vous conseille avant. Et utiliser ce sacrement, n'en faites pas un sacrement pour juste avant la mort. Ça, c'est une déviation. C'est une déviation énergétique du sacrement des malades qui en fait le viatique pour la mort. C'est pas comme ça qu'il est conçu. Quand le Christ prend de la salive pour mettre sur les yeux de l'aveugle, il fait pas ça pour la mort. Il fait ça pour que l'aveugle retrouve la vue et qu'il vive. Et le Christ fait guérir les malades pour la vie, parce qu'ils ont encore quelque chose d'important à vivre, et pas pour la mort. Eh bien, dans l'Église, la tradition s'est perpétuée d'utiliser l'huile des malades, qui est bénite et consacrée pour ça, pour la guérison de l'âme et du corps des fidèles défunts. Alors, c'est juste indirect, mais après le sacrement des malades, la lumière peut se faire, il suffit de l'accueillir, il faut être attentif. Alors, par contre, faut pas chercher la souffrance pour elle-même. On appelle ça le dolorisme. N'allez pas la chercher, elle viendra vite toute seule, vous savez. C'est pas la peine d'aller la chercher. Et l'érotisation de la douleur, c'est un truc c'est un truc mal foutu. Il y a un piège satanique quelque part là-dedans. Alors, d'autres sacrements. Le mariage. Le mariage est une bénédiction demandée à Dieu sur l'amour entre l'homme et la femme. Et il est donné pour la fécondité du couple, pas seulement les enfants, mais aussi leurs œuvres. C'est une organisation sociale qui se met en place et qui est aussi une organisation spirituelle. Nous chantons « Tu as mis sur leur tête des couronnes ». Et c'est ce qu'on chante dans la liturgie de bénédiction des mariages. Et demander cela à l'Église, c'est demander la bénédiction de Dieu sur la vie des époux. Enfin, quelques mots sur l'ordination. L'ordination, c'est l'évêque qui impose les mains sur le futur diacre ou le futur prêtre pour qu'il accomplisse les sacrements institués par Jésus-Christ au bénéfice des fidèles. Alors, il y a quelques citations. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était pour le baptême, qui devient ordinairement fait par l'ordination du prêtre, éventuellement du diacre. À la limite, tout chrétien peut baptiser. Si on veut baptiser quelqu'un avant qu'il meure, on a tout à fait la possibilité de bénir l'eau et de faire dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Plus solennellement, quand on a le temps de s'organiser, on fait le baptême dans le cadre de la paroisse, c'est un événement qui est aussi paroissial. Et ça, c'est organisé par le prêtre dans le sein de la paroisse. Autre citation, c'est « Prenez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. » C'est les paroles de l'institution eucharistique qui sont relatées dans le Jeudi Saint, où le Christ a dit cela devant ses apôtres, et il leur a demandé de perpétuer ces paroles et ce geste, de façon à ce que le Christ soit présent physiquement au milieu de nous, et en nous quand nous le mangeons, l'Eucharistie. Il y a aussi une autre citation, « Tes péchés te sont remis », c'est ce qu'il dit aux paralytiques, et ce qui a un rapport avec « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ». Le Christ a dit ça à ses apôtres avant de les quitter. C'est dans l'Évangile. Enfin, je parlerai de la prière pour les défunts. C'est une sorte de sacrement, c'est la limite du sacrement et de la prière pure. On prie pour les défunts dans la panikide, la liturgie des défunts. On sait faire. On a une longue liste de personnes qui sont parties déjà dans l'autre monde, et donc que nous nommons en demandant la grâce divine pour eux. Et c'est opératif. Dans l'autre monde, ils ont soif de ce que notre monde vivant prie pour eux. Ils sont dans l'attente et ils sont nourris par le fait que nous prions pour ceux qui ont quitter leur corps pour vivre quelque part dans les cieux. On ne sait pas où, parce que ce n'est pas nous qui jugeons. C'est le Christ qui juge. Mais nous savons qu'ils ont une existence dans l'autre monde et nous prions pour eux. Et de l'autre côté, c'est très important ce qui se passe. Quand nous prions pour les défunts. Je suis à disposition pour des questions, si vous avez des questions à poser.